Torahbox.com pour la diffusion du judaïsme aux francophones vous retransmet un cours de Talmud. Traité Menachot, page 67, Dav Samer Zain. Bonne écoute et bon limoud.
Gilgul Hekdesh, le pétrissage d'une pâte alors que celle-ci appartient au Hekdesh, poter, exempte le prélèvement de l'achala, même si cette pâte est rachetée par la suite par un Israël. Détenan, car il est enseigné dans une Mishnah, dans Maseret Chala, Perek Gimel, Mishnah Gimel, Higdisha Isata Achelo Gilgela, si une femme a sanctifié, donc désigné pour le Hekdesh, sa pâte avant de l'avoir pétrie, ou Pedaata, puis elle l'a rachetée avant le pétrissage, Chayevet, elle a l'obligation de prélever la Chala. Mishé Gilgela, si elle a sanctifié cette pâte après l'avoir pétrie, ou Pedaata, puis elle l'a rachetée, Chayevet, elle a aussi l'obligation de prélever la chala minatora, étant donné que le pétrissage a été fait lorsque cette pâte appartenait à Israël. Higdisha achelo gilgela, si elle a sanctifié la pâte avant de l'avoir pétrie, ve gilgela hagizbar, et c'est le responsable du Hekdesh qui l'a pétrie, ve achakar pedaata, et seulement après cela, elle l'a rachetée, une fois qu'elle a été pétrie, ptura, elle est exemptée du prélèvement de la chala, Shebeshaat Chovata Haitaptura, car au moment où l'obligation de prélever la chala prend effet, lorsque celle-ci est pétrie, elle était exemptée du prélèvement de la chala. Bae Rava. Rava a posé la question suivante. Gilgul Oved Kochavim Mai. Le pétrissage d'une pâte par le goy. Qu'en est-il? Est-ce que le fait que la pâte a été pétrie par le goy, donc lorsque la pâte lui appartenait, est-ce que celle-ci est exemptée du prélèvement de la chala, même lorsqu'elle est rachetée par un Israël ou non? Mitnatnan. Effectivement, il est enseigné dans une Mishnah, dans Masechet Chala, Perek Gimel, Mishnah Vav. Ger Shenit Gayer, un goy qui s'est converti, behaitalo Issa, et il avait une pâte. Naasa Achelonit Gayer, si la pâte a été pétrie avant qu'il se soit converti, patour, il est exempté du prélèvement de la chala. Mishenit Gayer, si la pâte a été pétrie après qu'il se soit converti, chayav, il aura l'obligation de prélever la chala. Safek, s'il y a un doute, si le pétrissage a eu lieu avant qu'il se soit converti ou après, chayav, il a l'obligation de prélever la chala. Alors la question se pose, ha, cette Mishnah man katanela, qui en est l'auteur? Divrei Akolhi, est-ce que tout le monde est d'accord avec cette Mishnah? Vafilu Rabbi Meir ve Rabbi Yehuda. De Kamechaïve Atam, même Rabbi Meir et Rabbi Yehuda qui rendent le prélèvement de la dîme obligatoire là-bas, lorsque le travail de la fin de la moisson et de l'engrangement a été terminé, alors que la récolte appartenait à un goy, Patriacha, ici, ils exemptent le prélèvement de la chala si celle-ci a été pétrie lorsqu'elle appartenait à un goy, parce que Hatam, là-bas, concernant le prélèvement de la dîme, Houdirtiv, Degancha, Degancha, Yetera. La Torah a écrit un terme de Degancha en plus. En effet, ce terme Degancha, qui veut dire tes céréales, est écrit à trois reprises dans le Sefer Devarim. Premièrement, dans Devarim Yudbet, où la Torah dit, tu ne pourras pas manger dans tes villes la dîme de tes céréales. Il s'agit de la seconde dîme destinée à être consommée dans la ville de Yerushalayim. Puis, dans Dvarim Yudalet, c'est écrit, et tu mangeras devant Hachem, etc., la dîme de tes céréales. Et plus loin, dans Dvarim Yudret, c'est écrit, Reshit Degancha, le début ou les prémices de tes céréales. Il s'agit là-bas aussi du prélèvement de la dîme. Ce terme Degancha peut être interprété aussi par Diguncha, c'est-à-dire ta production de céréales. De là, nous apprenons que seulement si c'est toi, le Israël, qui produit ces céréales sera concerné par l'obligation du prélèvement de la dîme, mais si la production est faite par quelqu'un d'autre, le prélèvement ne sera pas obligatoire. Donc le premier terme d'Egancha vient exclure le cas où c'est le Hekdesh qui termine la production des céréales. Il en reste deux autres. Donc le premier, théoriquement, devait exclure le cas où ces céréales sont produites par le goy. Cependant, puisque le terme de Degancha est écrit à deux reprises, Have Mi'ut Achar Mi'ut, il s'agit d'une exclusion suivie d'une autre exclusion, Ve'en Mi'ut Achar Mi'ut El Alerabot. Et lorsqu'il y a une exclusion suivie d'une autre exclusion, nous ne l'interprétons que par une inclusion. En fait, la deuxième restriction vient restreindre la première restriction. Donc finalement, nous avons au contraire une inclusion. Les rabot à filouf des kochavim, cela vient inclure même le cas où la fin du travail de la moisson et de l'engrangement est effectuée par le goy. Quand même, cette production sera concernée par l'obligation du prélèvement de la dîme. Et c'est cela donc la raison de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda. Et la raison pour laquelle il choisit d'inclure le cas où la production est faite par le goy et non pas le cas où cette production est faite par le Hekdesh, car la production d'un goy ressemble à celle d'un Israël, en cela qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer un rachat pour pouvoir l'utiliser par un Israël. Tandis que la production du Hekdesh ne peut être utilisée par Israël, par un profane, que lorsque celle-ci a été rachetée. En tout cas, ceci dit, c'est cela la raison de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda en ce qui concerne le prélèvement de la dîme lorsque la production a été faite par le goy, avalacha, mais ici en ce qui concerne le prélèvement de la chala, trezimne arisotechem ktiv, le pasouk emploie à deux reprises le terme de arisotechem dans Bamidbar Tedvav concernant l'obligation de prélever la chala. Le pasouk emploie à deux reprises l'expression reshit arisotechem, le début de vos pattes. Nous lisons selon la Shita Mekoubetzet, chad arisotechem, velo isa tovde kochavim. La première expression, vos pattes, vient nous enseigner et non pas la patte d'un goy. Vechad arisotechem, velo isa tekdesh. Et le deuxième terme, arisotechem, vos pattes, vient nous enseigner et non pas la patte du hekdesh. Donc finalement, nous avons une exclusion pour chacune de ces types de pattes. Forcément donc, Rabbi Meir et Rabbi Yehuda seraient d'accord que même lorsque la pâte a été pétrie par un goy, elle sera exemptée du prélèvement de la chala. Odilma, ou bien Rabbi Yossi et Rabbi Shimon Katanela, c'est Rabbi Yossi et Rabbi Shimon qui enseignent cela dans la Braïta, que si la pâte est pétrie par le goy, elle est exemptée du prélèvement de la chala, des cas patrés, car ils exemptent aussi le prélèvement de la dîme lorsque la production est effectuée par le goy. Aval Rabbi Meir ve Rabbi Yehuda, mais en ce qui concerne l'opinion de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, Gamre Reshit Me'atam applique une Gzera Shava dont le support serait le terme de Reshit, écrit à deux reprises, une fois à propos du prélèvement de la dîme dans Dvarim Yudchet et dans Bamidbar Tedvav concernant le prélèvement de la Chala. Ils diront donc, de même que la production du goy est concernée par l'obligation du prélèvement de la dîme, il en est de même pour la pâte pétrie par le goy. Amar Rava, Rava dit là-dessus, Yehé Rava d'Erzeh Bechilma. Je souhaite que soit la volonté d'Hachem que je vois en rêve la réponse à cette question. Hadar Amar Rava, par la suite, Rava s'est ravisé et a conclu la chose suivante. Man de Amar Miruach Oved Kochavim Poter, celui qui pense que le fait de lisser le tas de céréales effectué par le goy, donc lorsque cette production appartient à un goy, exempte le prélèvement de la dîme. Gilgul haoved kochavim poter pense aussi que le pétrissage de la pâte effectué par le goy exempte l'obligation de prélever la chala. Man de amar miruach haoved kochavim eno poter, mais celui qui pense que le fait de lisser le tas de céréales effectué par le goy, donc lorsque cette production appartient au goy, n'exempte pas le prélèvement de la dîme, comme le pensent Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, Gilgul Oved Kochavim Enopoter pense aussi que le pétrissage de la pâte effectuée par un goy n'exempte pas le prélèvement de la chala. Et Tivé, Rav Papa le Rava, Rav Papa a opposé à Rava la braïta suivante. Oved Kochavim Shehifrish Peter Chamor, un goy qui aurait désigné un agneau pour le rachat du premier-né d'une ânesse, alors qu'il est exempté de le faire, Vechala, ou bien s'il a prélevé la chala, modi'in oto shu patur, on lui fait savoir qu'il est exempté de ses prélèvements, et donc ils ne valent rien. Vechalato nechelet lezarim, et ce qu'il a prélevé comme chala pourra être consommé par des étrangers qui ne sont pas Kohen, ou peter chamor gozez vovetbo, et l'agneau qu'il a désigné pour le rachat du premier-né de la naisse, il pourra le tondre et travailler avec. Autrement dit, il n'a pas le statut du rachat du premier-né d'une ânesse. nous pouvons déduire de là, ha trumato, mais ce qu'il a prélevé comme truma, qui est le prélèvement sur la production destinée au Kohen, asura, ce prélèvement sera interdit à la consommation pour les étrangers. Autrement dit, ce prélèvement aura une valeur, sera valable. Alors Rafapa demande, Veha haitana de Amar, pourtant l'auteur de cette braïta pense, Miroir haoved kochavim enopoter, que le fait de lisser le tas de céréales, qui est le travail qui termine la boisson et l'engrangement, lorsqu'il est effectué par le goy, c'est-à-dire lorsque cette production lui appartient, quand ce travail est terminé, n'exempte pas le prélèvement de la truma. Et quand même, l'auteur de cette braïta pense, Vigilgul Oved Kochavim Poter, que le pétrissage de la pâte effectué par un goy, l'exempte du prélèvement de la chala, contrairement à ce qu'a affirmé Rava. Ve'od, et en plus, étivé Ravina le Rava, Ravina a opposé à Rava la braïta suivante, Chalat Oved Kochavim Ba'aretz, la chala que le goy a prélevé sur sa pâte, même sur une production qui a poussé en Eretz Israël, ou Trumato Bechutzal Ha'aretz, et ce qu'il a prélevé comme Truma, qui est le premier prélèvement destiné au Kohen, sur une production qui a poussé en dehors d'Eretz Israël, Modi'in Oto Shehu Patur, on lui fait savoir qu'il est exempté de ses prélèvements, Chalato Ne'echelet Lezarim, et ce qu'il a prélevé comme chala pourra être consommé par des étrangers qui ne sont pas Kohen, ou Trumato Enam Edamat, et ce qu'il a prélevé comme Truma n'interdit pas le mélange dans lequel ce prélèvement serait tombé. Autrement dit donc, ces prélèvements n'ont aucune valeur. Nous pouvons déduire, ha trumato ba'aretz, mais ce qu'il a prélevé comme truma, qui est le prélèvement destiné au Kohen sur la production, sur une production qui a poussé en Eretz Israël, asura, ce prélèvement sera interdit au medamat, et même, elle interdira un mélange dans lequel elle serait tombée. Dans cette braïta, la preuve est plus forte, car elle parle clairement du prélèvement effectué sur ce qui a poussé en dehors d'Eretz Israël. Nous pouvons donc plus facilement déduire que ce prélèvement sur ce qui a poussé en Eretz Israël a effectivement une valeur. Veha haitana de Amar. Pourtant, l'auteur de cette braïta dit, Miroir haoved kochavim enopoter, que le travail qui termine la moisson et l'engrangement effectué par le goy n'exempte pas les prélèvements. Quand même, l'auteur de cette braïta pense, Gilgul haoved kochavim poter, que le pétrissage de la pâte effectué par le goy exempte le prélèvement de la chala, contrairement à ce qu'a affirmé Rava. L'agma répond, toujours pourrais-je te dire que l'auteur de cette braïta pense que le fait de lisser le tas de grains, qui est le travail qui conclut la moisson et l'engrangement lorsqu'il est effectué par le goy, exempte cette production du prélèvement de la truma et de la dîme. Cependant, Midrabanan, ce que nous voyons dans les braïtot, que ces prélèvements ont quand même une valeur, c'est uniquement un décret Midrabanan, Gzera Mishum Baale Kissin. Les Chachamim ont décrété cela à cause de ceux qui ont des grandes bourses, autrement dit, à cause des riches, qui voudraient se dérober du prélèvement de la truma et de la dîme. Et ce pour deux raisons. Soit parce qu'il s'agit de riches qui ont l'habitude d'acheter de grosses quantités de céréales chez des marchands goy, et s'ils voient que cette production est exemptée du prélèvement de la dîme, ils risquent de penser que toute production achetée de quelqu'un d'autre, même d'un Israël, est aussi exemptée de ce prélèvement. Soit parce qu'il s'agit de riches qui possèdent beaucoup de terrain, voyant que le prélèvement de la dîme représente une grosse quantité, ils risquent de vouloir donner ou vendre leur production à des goyim avant la fin du travail de la moisson et de l'engrangement, pour que ce soit eux qui le terminent, puis ils récupéreront leur production, et ainsi ils se dérobent du prélèvement de la dîme. C'est pourquoi donc les Chachamim ont décrété que même le prélèvement effectué par le goy sur sa production a une valeur, pour que tout le monde sache que même la production du goy, lorsqu'elle est achetée par un Israël, est concernée par l'obligation du prélèvement de la truma et de la dîme.
Vous êtes en plein cours de Guémara avec Torah Box. Et n'oubliez pas, chaque mot d'étude équivaut à accomplir les 613 mitzvot.
Nous tournons la page à Dav Samer Zayin Amud Bet. La Guémara demande, Achi, si c'est ainsi, Afilu Chalanami, même en ce qui concerne le prélèvement de la Chala, les Chachamim auraient dû décréter la même chose, justement à cause des riches, qui risquerait de vouloir se dérober du prélèvement de la chala en donnant la pâte au goy avant son pétrissage? L'agma répond, de toute façon, le Israël peut se dérober de l'obligation de prélever la chala, car efshar de afela pachot mechameshet revaim kemar veod, car il lui est possible de cuire et donc de fabriquer à chaque fois des quantités inférieures à celles requises pour le prélèvement de la chala, qui est de 5 quarts de cave de farine, autrement dit 5 lougs de farine et un peu plus, ce qui représente environ un volume de 3 litres de farine. La Gemara demande si c'est ainsi, Truma Nami, en ce qui concerne le prélèvement de la Truma, il est aussi possible de se dérober, même sans donner la production à un goy, car Efshar de Avidla Kederabi Oshaya, il peut agir sur cette production, comme l'a dit Rabbi Oshaya. Pour expliquer ce qui suit, nous ferons une petite introduction. À part ce que nous avons dit jusqu'à présent, que pour que le prélèvement de la dîme soit obligatoire minatora, il faut que le travail de la moisson et de l'engrangement soit terminé, ce qui est marqué par le fait de lisser le tas de grains, il faut aussi impérativement faire rentrer ces produits par la porte principale de la maison. S'il manque une de ces conditions, ou bien même si l'ordre est inversé, c'est-à-dire qu'il termine le travail après avoir fait rentrer les produits dans la maison, le prélèvement de la dîme ne sera plus obligatoire minatora. Nous devons noter aussi qu'une fois que le prélèvement de la dîme est obligatoire minatora, il est interdit d'en consommer même d'une manière passagère, et il est aussi interdit de nourrir les animaux avec ces produits. Mais avant cela, il est permis de consommer ces produits d'une manière passagère, sans se fixer à en faire un repas, et il est permis aussi de nourrir les animaux. Cependant, les Chachamim ont interdit d'en consommer d'une manière fixe, c'est-à-dire de fixer un repas avec ces produits. Rabbi Oshaya parle de quelqu'un qui veut essentiellement éviter de prélever la dîme pour nourrir ses animaux. En dehors de Rabbi Oshaya, Mari Madame Altubuato, une personne peut faire une ruse concernant sa récolte, ses céréales, ou Machlissa Bemotchela, il fait rentrer donc ses produits dans la maison avant le vannage, alors que la paille est encore mélangée aux graines, Kedesh Tehe Bemto Ochelet, afin que son animal puisse en consommer même après l'engrangement, ou Ptura Mina Maaser, et cette production sera exemptée Minatora du prélèvement de la dîme. Donc, il sera toujours permis d'en consommer d'une manière passagère et de nourrir ses animaux, mais comme nous l'avons dit précédemment, Midrabanan, il est interdit d'en consommer de manière fixe. Et cela, étant donné qu'il a fait rentrer ses produits à la maison sous forme de nourriture animale, donc sous forme de produits dont il est permis de consommer de manière passagère ou de nourrir ses animaux, même lorsqu'il termine le travail par le vannage dans la maison, il sera toujours exempté du prélèvement du maaser. Autre possibilité, c'est le fait qu'il fait rentrer ses céréales alors que la paille y est encore mélangée. Nous considérons que ces produits n'ont pas réellement vu la maison, ils ne sont pas réellement rentrés par la porte principale, ils resteront toujours exemptés du prélèvement de la dîme. Inami ou bien de Aïla, derech gagot, il peut aussi faire rentrer ses produits en passant par les toits, derech karpefot, ou par les cours arrière. Finalement, il n'est pas rentré par la porte principale de la maison, et ces produits restent donc toujours exemptés Minatora du prélèvement de la dîme. Donc, puisqu'il a de toute façon une manière de se dérober de l'obligation de prélever la dîme Minatora, il n'a donc pas besoin d'avoir recours à cette ruse de vendre sa production à un goy par exemple, afin que ce soit lui qui termine le travail de la moisson et de l'engrangement. Il ne serait donc pas nécessaire que les Chachamim décrètent que la production du goy soit concernée par l'obligation du prélèvement de la dîme. Il est vrai que s'il le faisait, il serait exempté de l'obligation du prélèvement de la dîme, même Midrabanan, ce qui ne serait pas le cas s'il agissait autrement en faisant rentrer sa production par la porte arrière. Cependant, nous savons que les Chachamim font des décrets uniquement pour renforcer les lois de la Torah et non pas pour renforcer les décrets des Chachamim. Donc, si c'est uniquement pour cela, donc pour se dérober à l'obligation Midrabanan de prélever la dîme, les Chachamim n'aurait pas décrété de rendre obligatoire le prélèvement de la dîme pour la production du goy. Alagma répond, Hatam, en ce qui concerne le prélèvement de la dîme, Donc s'il fait rentrer sa production par la porte arrière ou bien avant le vannage, Befaresia, ce sont des actions qui se font ouvertement. Zila ben Milta, c'est méprisable pour lui, c'est-à-dire il aurait honte de le faire publiquement. Et les Chachamim estiment donc qu'il préférerait avoir recours au fait que ce soit le goy qui termine le travail de la moisson et de l'engrangement. Et c'est pour cela qu'ils ont décrété que la production du goy serait concernée par une obligation du prélèvement de la dîme. Haha, en ce qui concerne le prélèvement de la challah, où il a la possibilité de faire à chaque fois des pâtes d'une taille inférieure à celle requise pour le prélèvement de la challah, Betina, ceci se fait en cachette, c'est-à-dire pas ouvertement, pas publiquement. L'Ozila Bemilta, ceci n'est pas méprisable pour lui, il n'aura pas honte de le faire. Donc, de toute façon, il a la possibilité de se dérober de l'obligation de prélever la challah. Il n'y a donc pas de raison que les Chachamim décrètent que la pâte produite par le goy serait concernée par l'obligation du prélèvement de la challah. Nouvelle Mishnah, Balo le Issaron, lorsque le Kohen vient s'occuper du Issaron, qui est la quantité de fleurs de farine utilisée pour l'offrande publique d'orge du deuxième jour de Pessah, cette quantité représente environ un volume de 4 litres et un tiers de fleurs de farine. Nous lisons selon la Shita Mkoubetset, Noten Trila Shamno Ulevonato Kodem Asolet. Il versait une partie de l'huile utilisée pour cette offrande dans l'ustensile destiné au pétrissage de cette offrande, avant d'y verser la fleur de farine. Il mettait aussi le galbanum. Cependant, comme le précise le Kerenora, le galbanum devait être mis sur l'offrande après son pétrissage pour ne pas que le galbanum se mélange à la pâte. Car premièrement, il y aurait le risque que dans le prélèvement que le Kohen effectue avec la poignée de sa main de cette pâte, il y ait aussi du galbanum qui serait pris avec. Ce prélèvement serait donc invalidé. Et deuxièmement, puisqu'il faut récolter tout le galbanum pour l'offrir sur l'autel, il faut donc qu'il ne soit pas mélangé à la pâte. Puis Yatsak, après avoir versé la fleur de farine, il verse à nouveau une nouvelle quantité d'huile, ou balal, et il pétrissait la pâte, comme c'est expliqué plus loin, Daf Aindal et Amudbet, pour l'offrande à base de farine, il y a en fait trois versements d'huile. Le premier, c'est avant qu'on mette la farine dans l'ustensile destiné au pétrissage. Le deuxième, c'est après avoir versé la farine et à ce moment, il pétrit la pâte. Puis après le pétrissage, il y a un troisième versement où il verse le reste de l'huile. Henif, il procède au balancement vers l'avant, vers l'arrière et vers les deux côtés, vers le haut et vers le bas. Vehigish, puis il approche l'offrande au coin sud-ouest de l'autel. Kamatz, il effectue le prélèvement de la pâte avec la poignée de sa main. Vehiktir, puis il met ce prélèvement à brûler sur l'autel. Ve'achar ne'echal ha'kohanim, et le reste de l'offrande est destiné à être consommé par les kohanim. Mishekara ba'omer, une fois que le homer, donc cette offrande publique du deuxième jour de Pessah, a été offerte, yotz'im ou motz'im shuk Yerushalayim, ils sortent et ils trouvaient que dans le marché de Yerushalayim, nous lisons selon Rashi, she'umale kemar ve'kali, qui était plein de farine et de graines grillées provenant de la nouvelle récolte chez l'Obirton Chachamim, et ce, contre la volonté des Chachamim, c'est-à-dire contre leur habit, car s'il y avait de la farine sur le marché, forcément, ils ont déjà moissonné avant Pessah, même dans les situations où c'est permis. Cependant, il y a le risque qu'ils mangent de cette récolte avant l'offrande du Homer, ce qui est interdit Minatora. Du vrai Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir, Rabbi Yehuda Homer. Birtson Chachamim Hayosim, il le faisait avec l'acquiescement des Chachamim, et ce comme l'Agmara l'expliquera, car il n'y a pas de risque qu'il mange de cette nouvelle récolte avant l'offrande du Homer. Nous avons fini sur le shiur de Maseret Menachot d'Af Samer Zayin. Nous commençons le shiur de Maseret Menachot d'Af Samechet. Nous commençons d'Af Samer Zayin Amudbet au milieu de la cinquième ligne du bas de la page, au début de l'Agmara. Nous avons vu précédemment dans la Mishnah qu'immédiatement après l'offrande publique du deuxième jour de Pessah, les marchés de Yerushalayim étaient remplis de farine et de graines grillées provenant de la nouvelle récolte. Forcément, la moisson de ces produits a eu lieu avant Pessah, donc avant l'offrande publique du deuxième jour de Pessah. Et là-dessus, il y a une discussion entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Selon Rabbi Meir, ceux qui le faisaient n'ont pas agi avec l'accord de Chachamim, bien que, comme nous le verrons par la suite, dans certaines circonstances, il est permis de moissonner avant l'offrande publique du deuxième jour de Pessah. Cependant, il y a quand même à craindre qu'ils consomment cette nouvelle récolte. Tandis que selon Rabbi Yehuda, ils ont agi avec l'accord de Chachamim. La Gemara demande, Velo Gazar Rabbi Yehuda Dilma Atele Mechalmine, est-ce que Rabbi Yehuda ne décrète pas d'interdire une action de peur qu'on vienne consommer l'aliment interdit en question? Donc Rabbi Yehuda n'interdit pas de moissonner avant la fête de peur qu'on vienne consommer la nouvelle récolte, Veraminu, et on a opposé à cela une Mishnah dans Maseret Psachim Daf Yehuda Mudbet. Rabbi Yehuda Omer, Bodkin Or Arba Asar, on vérifie la maison de la présence du Hametz la veille du 14 Nissan, à la nuit, ou Be'arba Asar Shacharit, si on a oublié de le faire, on procède à cette vérification le 14 Nissan au matin, ou Be'shat Abiyur, et si on a oublié de le faire le matin, on le fait au moment où il faut détruire le Hametz, donc à midi de ce jour du 14 Nissan, la veille de Pessah. Mais s'il a même oublié à ce moment de faire cette vérification, il ne le fera pas plus tard, donc pendant la fête de Pessah, car s'il trouve du Hametz, il risque d'en consommer. Bachachamim Omrim, l'Obadak, s'il n'a pas vérifié la veille du 14 Nissan, il le fera le 14 Nissan au matin. S'il ne l'a pas fait le matin, il le fera à midi de cette journée qui est le moment destiné pour détruire le Hametz. S'il ne l'a pas fait à ce moment, il le fera même plus tard, pendant la fête de Pessah. Il ne craigne pas qu'il consomme le Hametz qu'il trouve. En tout cas, nous voyons dans cette Mishnah que Rabbi Yehuda craint qu'on consomme un aliment interdit et il interdit donc de s'en occuper, même de vérifier le Hametz pour le brûler. L'Agma répond, Amar Rabba, Sha'ani Hadash, en ce qui concerne la nouvelle récolte, c'est différent. Il n'y a pas lieu d'interdire de produire de la farine avec la nouvelle récolte avant l'offrande publique du deuxième jour de Pessah.
Nous espérons que ce cours a été apprécié. Retrouvez sur le site torah-box.com gratuitement un cours sur chaque page du Talmud, ainsi que le Daf Hayomi quotidiennement en vidéo.